vont.
To the Batmobile. Let's go.
Marc Dacier.
On parle ce soir des représentations de la Lune dans la bande dessinée, et en particulier de la plus célèbre, celle proposée dans deux albums de Tintin publiés chez Casterman. Pour faciliter la réalisation de Objectif Lune et On a marché sur la Lune, Hergé a fait réaliser une extraordinaire maquette de sa fusée lunaire. Soumise à l'approbation du scientifique Alexandre Ananov, l'auteur du livre L'Astronautique, ce modèle réduit était entièrement démontable et permettait au jeune Bob Demoore, principal responsable des décors au studio Hergé, de savoir à chaque instant à quel endroit du vaisseau spatial se trouvaient les personnages. Ce constant souci du détail donne à l'ensemble de l'aventure une remarquable qualité de vraisemblance, et ce, même si les solutions adoptées au cours de la très réelle conquête de l'espace qui allait se développer au cours des années suivantes devaient se révéler assez différentes de celles évoquées dans l'album. Élaborer un récit attrayant à partir d'un matériau aussi ardu était pourtant loin d'aller de soi, et plus d'un dessinateur se serait cassé les dents sur ce sujet en le transformant en un laborieux documentaire. C'est de deux manières, essentiellement, qu'Hergé a réussi à éviter ce travers. Le premier stratagème consiste en l'introduction d'une dimension humoristique dans toutes les scènes d'explication scientifique. Objectif Lune, surtout, abonde en développements techniques extrêmement précis qui auraient pu devenir fort ennuyeux, particulièrement pour les jeunes lecteurs. Hergé ne se prend jamais trop au sérieux, et quelle que soit la complexité des matières qu'il traite, il ne craint pas d'y introduire des éléments comiques qui donnent à toutes ces scènes une merveilleuse légèreté. L'humour d'Adoc, notamment, donne lieu à d'irrésistibles réparties.
Un atome du 235 va, en se désintégrant, projeter deux ou trois neutrons. L'un ou l'autre de ceux-ci sera absorbé par un atome du 238 qui se trouvera ainsi transformé en plutonium. Mais les autres neutrons, que vont-ils devenir?
Ben justement, j'étais inquiet à leur sujet.
Eh bien, freinés par le graphite qui les environne, ils vont continuer leur course à travers la pile et finiront par y toucher un des rares atomes du 235, lequel éclatera à son tour, en libérant de nouveau deux ou trois neutrons. Vous voyez?
Bah, je pense bien, c'est simple comme bonjour.
Le rôle du capitaine dans une telle scène est extrêmement important, bien au-delà du simple gag, car il offre la possibilité à ceux des lecteurs qui ne suivent pas très bien l'explication scientifique de trouver à l'intérieur de la fiction un personnage qui soit dans la même situation qu'eux. C'est d'ailleurs un fonctionnement comme celui-ci qui permet le mieux de distinguer l'art d'Hergé du travail de beaucoup d'autres dessinateurs, et notamment de celui d'Edgar P. Jacobs, le père de Blake et Mortimer. En effet, chez Jacobs, l'explication scientifique est toujours prise au sérieux, par le conteur aussi bien que par les personnages. Il en résulte une grande solennité qui, quelquefois, ne va pas sans lourdeur. En dehors de cet humour, il est une autre chose qui permet à ce double album d'être un récit d'aventure à part entière et pas seulement un reportage sur une expédition dans l'espace. C'est celle qui introduit progressivement dans cette histoire une vraie dimension romanesque. Il ne s'agit d'abord que de simples petites touches. Régulièrement nous est présenté le point de vue d'ennemis inconnus qui commentent ironiquement les progrès des recherches de nos héros. Ce n'est pourtant qu'à la page 40 d'On a marché sur la Lune que cet aspect éclate véritablement, avec l'entrée en scène d'un passager clandestin, le colonel Jorgen, et la révélation de la trahison de l'ingénieur Wolf. Singulier personnage que ce Wolf, qui vient introduire dans l'album une note véritablement tragique. Figure inhabituelle dans l'œuvre d'Hergé, Wolf est presque plus une victime qu'un mauvais au sens classique. L'ingénieur s'est d'abord laissé entraîner par son goût du jeu, puis sa faiblesse l'a conduit à se soumettre à un chantage de plus en plus pressant. Personnage torturé et ambigu, une figure comme celle de Wolf prouve à qui aurait encore besoin d'en avoir la démonstration que l'univers d'Hergé est beaucoup moins manichéen que certains esprits rapides ne croient pouvoir l'affirmer.
Allô ? Allô, ici la Terre ? Allô ? Allô, que s'est-il passé ? Nous avons entendu un coup de feu. Allô ? Répondez.
C'est fini. Plus rien à faire.
Allô ? Allô ? Ici Tournesol ! C'est terrible ! Écoutez, Jorgen était parvenu à se libérer. Alors, il a voulu nous tuer ! Wolf est intervenu, ils se sont battus. Jorgen avait son pistolet à la main. Au cours de la lutte, le coup est parti. Voilà. Jorgen a reçu la balle en plein cœur. Terminé.
Je ne voulais pas le tuer. C'est lui-même.
Je sais, Wolf. Vous n'avez rien à vous reprocher dans ce qui vient d'arriver. Tenez, Wolf. Voici vos lunettes.
Merci. Merci beaucoup.
Vous allez reprendre votre place parmi nous. Je vous fais confiance.
Oh, Oh, merci.
C'est la fin de ce numéro spécial réalisé par Christian et consacré à la Lune dans la bande dessinée. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz, en l'occurrence avec un morceau de circonstance, It's Only a Paper Moon, ce n'est qu'une lune de papier, par Coleman Hawkins. Bonsoir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine. Thank you.